Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, une émission préparée par Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Fanny Richet, Nicolas Ignatieff. Réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son, Ariane Herbet. La coalition militaire mise en place en septembre dernier pour lutter contre Daesh a-t-elle suffisamment fait la preuve de son efficacité pour être reconduite telle quelle ? Ou bien une réorientation stratégique est-elle nécessaire au vu des résultats obtenus sur le terrain ? C'est à ces questions que vont devoir répondre les ministres des Affaires étrangères de la vingtaine de pays membres de cette coalition. Ils sont réunis demain à Paris. Il y a encore 2 mois, Daesh, l'État islamique en Irak et au Levant, pouvait apparaître affaibli. Tenu en échec en janvier par les forces kurdes lors de la bataille syrienne de Kobané, l'organisation reperdait la ville de Tikrit début avril lors d'une offensive conjointe des forces irakiennes et de l'armée de l'air américaine. Mais depuis, il y a eu Ramadi le 18 mai et Palmyre 3 jours plus tard. 2 victoires aux djihadistes, l'une en Irak, l'autre en Syrie. Stratégique pour la première, symbolique pour la seconde, témoins toutes les deux de la puissance militaire d'un groupe dont on ignorait presque tout il y a encore 1 an. Il y a 1 an, c'est-à-dire à la prise de Mossoul, le 10 juin 2014. Ce jour-là, l'État islamique n'accède pas seulement à une notoriété augmentée, il s'empare de ressources pétrolières, bancaires, d'administration, qui donnent corps à son projet, proclamé quelques jours plus tard, la création d'un califat à cheval sur l'Irak et la Syrie, un territoire aujourd'hui sanctuarisé. Alors la puissance de feu de Daesh a-t-elle été sous-estimée ? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, je reçois ce soir 3 invités. Philippe Migaud, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chargé de conférence à Sciences Po Paris sur les menaces sécuritaires internationales. Vous venez de publier chez Plomb « Le djihadisme, le comprendre pour mieux le combattre », ouvrage écrit avec David Benichou et Farhad Khosrow-Kavar. Pour discuter avec vous ce soir, Alain Rodier, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur adjoint du Centre français de recherche sur le renseignement. C'est un centre privé, c'est un think tank en fait. Vous êtes un ancien officier supérieur des services de renseignement français. Vous publiez « Grand angle sur le terrorisme », qui est une publication qu'on peut uniquement trouver en version numérique, c'est bien ça ?
C'est tout à fait ça, aux éditions UPPR.
Notre 3e invité, Romain Caillet, bonsoir.
Bonsoir.
Chercheur associé à l'Institut français du Proche-Orient. Vous étiez en poste à Beyrouth, enfin vous étiez chercheur associé jusqu'à ce qu'on vous demande de quitter le Liban. Je vois que vous me faites non, mais voilà, la phrase elle est complétée. On vous a signifié votre expulsion, c'était le 1er mars dernier. Les autorités libanaises vous reprochaient une trop grande proximité avec des organisations terroristes. Ça, c'est en tout cas le motif qui a été invoqué. Vous êtes spécialiste des questions liées à l'islam radical. Alors, pour commencer notre discussion, je voudrais qu'on revienne quasiment il y a 1 an en arrière.
Le IL a décidé de changer de nom et de créer un califat islamique. L'enregistrement audio a été diffusé sur Internet au premier jour du Ramadan.
L'État islamique a décidé d'annoncer la création d'un califat islamique et de nommer comme calife le cheikh, le djihadiste, l'imam et le descendant de la maison du prophète Abdullah Ibrahim al-Baghdadi.
Un titre qui désigne Abu Bakr al-Baghdadi comme successeur de Mahomet et donc comme chef de tous les musulmans. Fort de ses conquêtes sur le terrain, l'État islamique revendique ainsi un territoire à cheval entre la Syrie à l'ouest et une grande partie de l'Irak à l'est.
Voilà, extrait d'un reportage de France 24 diffusé le 30 juin 2014. 1 an quasiment s'est écoulé, Romain Caillet. Ce qu'on peut dire que 1 an après, l'État islamique est beaucoup plus puissant qu'il ne l'était en 2014, en juin 2014.
Bon, alors il faut effectivement relativiser les 2 victoires qu'il y a eu, parce que supposons que nous avions fait cette émission il y a 3 mois, nous aurions dit que l'État islamique subit des revers, a été affaibli, qu'on l'avait surestimé. Bon, en réalité, moi je suis pas spécialiste du fait militaire, mais il semble évidemment que on l'avait sous-estimé en fonction des victoires et des acquis qu'il y avait eu, des pillages qu'il y avait eu dans les réserves de l'armée irakienne.
La question porte moins, Romain Caillet, sur la sous-estimation pour l'instant de la puissance militaire que de sa puissance globale aujourd'hui.
J'allais y venir. Ce qu'on a vraiment sous-estimé, c'est la capacité de l'État islamique à séduire de larges parts de la jeunesse du monde arabe et aussi des diasporas musulmanes en Occident, et aussi sa capacité à faire corps avec l'insurrection sunnite en Irak et, on en parle peu, mais de phénomènes de syrianisation qui est actuellement dans les rangs d'État islamique. On le voit quand on voit les kamikazes qui font des attaques suicides, soit en Irak, soit en Syrie. Il y a un nombre impressionnant de Syriens, à tel point que les Syriens sont devenus la principale nationalité à effectuer ce type d'opération, ce qui nous montre une capacité à embrigader, à endoctriner une grande partie de la jeunesse syrienne.
Donc puissance médiatique, puissance politique, puissance militaire. Philippe Migaud, dans votre ouvrage, vous écrivez que l'État islamique est devenu l'organisation la plus puissante et la mieux structurée de la mouvance Moudjahidine. Et vous dites finalement peut-être qu'un des principaux succès finalement de ces derniers mois de cette organisation, c'est d'avoir réussi à sanctuariser son djihad.
Oui, et j'irais puissance aussi de modèle. Puissance de modèle par rapport à un Al-Qaïda qui est vieillissant, qu'il ne faut pas simplement traiter avec tranquillité, parce que Al-Qaïda, c'est toujours un modèle qui a montré sa résilience et sa capacité à frapper. Il y a d'ailleurs en Syrie un groupe d'Al-Qaïda au sein de Jabhat al-Nusra, le groupe Khorasan, qui vise plus spécifiquement à faire des frappes sur l'Occident, la France, et l'Europe et les États-Unis. Mais je dirais, ce qu'il y a de, à mon sens, d'important, c'est en effet cette capacité qu'a l'État islamique à récupérer y compris des adversaires dans un objectif commun sur les territoires qu'elle conquiert. C'est le cas de la Syrie aujourd'hui, c'était le cas de l'Irak hier, puisque la grande partie des cadres supérieurs de l'État islamique aujourd'hui, ce sont des anciens cadres de l'armée ou des services de renseignement de Saddam Hussein.
Quand vous dites sa capacité à récupérer d'anciens adversaires, de gré ou de force, c'est-à-dire est-ce que ce sont des adversaires qui viennent et qui adhèrent véritablement au projet de l'État islamique ?
Pour les cadres, c'est de gré. C'est de gré, c'est la volonté de revanche. Ils sont dans une idéologie totalitaire, ils reprennent les méthodes qu'avait utilisées Saddam Hussein à l'époque. Et ensuite, vous avez dans les populations qui sont des populations qui sont de plus en plus acculées parce qu'on ne les a pas laissées, je dirais, vivre normalement. Ce qu'a fait le régime d'Al-Maliki en Irak, ça a été d'acculer les sunnites. Eh bien, on a eu des populations qui, par tribu entière, se sont ralliées à un ordre barbare, mais qui au moins leur assuraient une sécurité. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est puissance de modèle et aussi capacité à s'adapter aux failles de l'adversaire. Aujourd'hui, tout le monde nous dit que l'État islamique, c'est un modèle sanctuarisé. Ils sont en train de créer aussi une déterritorialisation avec l'Afrique, où on a vu en novembre dernier, 5 nouvelles provinces être adoubées entre l'Afrique, Algérie, Libye, Égypte et puis le Moyen-Orient, Yémen et Arabie Saoudite, où ils font partout des attentats. Et puis, la puissance de Boko Haram derrière, qui est plus une puissance, je dirais, médiatique dans ce cadre-là, mais aussi une capacité à montrer qu'ils ont, comme le disait parfaitement Romain tout à l'heure, un modèle qui aujourd'hui s'étend et séduit de nouvelles générations.
Voilà, Boko Haram qui a annoncé son affiliation en mars à l'État islamique. Alain Rodier, donc, il y a cette puissance de conviction, mais puissance de conviction qui s'appuie aussi sur des victoires militaires. S'il fallait faire alors la balance entre les victoires et les défaites, ce qu'on dirait que l'État islamique, en un an, a été davantage victorieux qu'il n'a été battu.
Oh, on peut dire qu'en réalité, il a maintenu ses positions, et ça, c'est déjà assez extraordinaire, mais c'est surtout dû à la faiblesse de ses adversaires. L'armée irakienne, soyons francs, ne vaut rien, malgré les années d'entraînement par l'armée américaine. L'armée syrienne est épuisée, littéralement épuisée et lessivée à l'heure actuelle, et ce qui explique d'ailleurs son repli tactique, parce qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de bataille à proprement parler. Et l'État islamique, quand on prend son noyau à cheval sur la Syrie et l'Irak, là, c'est devenu une véritable armée classique. C'est-à-dire que dans la guerre non conventionnelle, pour moi, il y a trois niveaux. Le terrorisme, qui est un outil de combat, faut pas l'oublier. C'est pour ça que la guerre contre le terrorisme, pour moi, ça veut pas dire grand-chose. Ensuite, il y a le niveau de la guérilla, et on arrive, quand on est assez puissant, à la guerre conventionnelle. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire, donc, en Syrie et en Irak. Par contre, effectivement, sur les provinces, parce qu'ils ont appelé ça les provinces à l'étranger, sur le continent africain en particulier, là, ils n'ont pas encore atteint ce niveau de puissance, mais ils sont en train de le gagner un petit peu en Libye. Bon, pour Boko Haram, effectivement, c'est un problème un petit peu à part.
Donc, une grande plasticité, finalement, de cette organisation, Romain Caillé, qui est capable de s'adapter à la nécessité du terrain.
Oui, c'est-à-dire qu'on le voit, ils œuvrent dans des terrains totalement différents, soit en tant que véritable État, voire puissance régionale en Syrie et en Irak, ou alors dans la clandestinité, dans un certain nombre de wilayas, de branches locales de l'État islamique, que ce soit en Égypte, en Algérie, et même en concurrence avec les talibans. Là, récemment, l'État islamique a quasiment déclaré la guerre aux talibans dans une vidéo dans laquelle ils accusent les talibans d'être alliés au service secret pakistanais contre eux.
Vous évoquez les talibans, c'est justement sur ce sujet que je voulais vous entraîner, si j'ose dire, Philippe Migaud, puisque comme le disait Alain Rodier, voilà, c'est une organisation qui est capable à la fois de faire des attentats, donc des modalités assez classiques par rapport à une organisation terroriste, de la guérilla urbaine et puis du combat plus classique, comme les guerres entre des armées d'État. Est-ce que cette organisation pourrait se rapprocher de ce qu'on a connu avec les talibans? Est-ce que ça pourrait être ça la référence ou en tout cas le parallèle qui pourrait être fait?
Non, je dirais il y a dans l'histoire du djihadisme combattant, il y a un certain nombre d'exemples de cette démarche. Les talibans, ça n'a pas été créé par une structure extérieure, ça a été formé par l'État pakistanais pour rétablir l'ordre chez son voisin. Bon, je pense qu'on pourrait plutôt parler de Al-Qaïda au Maghreb islamique. À l'époque, il s'appelait le groupe salafiste pour la prédication et le combat. En 2003, c'est un groupe qui est isolé au nord de l'Algérie, encerclé. Il envoie 100 de ses combattants pour se restructurer dans sa base arrière de l'Edrar des Iforas, au Mali. Et puis, à partir de... Donc, ce sont des terroristes qui vont prendre un peu d'air pour se reformer. Et puis, en 2005, ce même groupe salafiste pour la prédication et le combat fait la première attaque contre un poste frontière, à la frontière mauritano-malienne, poste de l'Emreti, tue 15 soldats mauritaniens. Et là, pendant 8 ans, ils vont dans le désert mener des actions de guérilla victorieuses contre des camps ou des convois des armées mauritaniennes, maliennes et nigériennes. C'est cette puissance qui leur permet, sous le paravent de Ansar Eddine, en 2012, de fonder l'Émirat islamique du Nord Mali, qui se présente déjà comme un État et qui va passer à la troisième phase, celle de la guerre, contre l'État malien par l'attaque du 10 janvier qui entraîne immédiatement la réaction française de Serval en application de la résolution 2085. Le problème derrière tout ça, on le voit, c'est d'abord un problème financier, parce que pourquoi ils descendent au sud? C'est parce qu'ils ont besoin d'argent, de nourriture, d'essence. Là, on est dans une vision plus différente, on est dans un modèle nouveau. Je crois que c'est ce que disait bien Romain tout à l'heure. On a un modèle qui est beaucoup plus attractif sur un djihad de proximité. Vous avez aujourd'hui vraisemblablement 15 000 combattants syro-irakiens dans l'État islamique. Vous avez vraisemblablement près de 20 000 combattants étrangers, dont à l'intérieur 4 000 Européens. Ce qui est quand même extrêmement inquiétant. Vous avez 3 000 Tunisiens, 4 000 Saoudiens. Vous avez des gens qui viennent aussi bien des Ouïghours que du Caucase, que d'Asie du Sud-Est. Donc on a un modèle attractif et il ne faut pas se leurrer. On ne peut pas résoudre de toute façon le problème de l'État islamique simplement par la voie militaire. Il faut une réponse politique. Et là, on ne l'a pas encore trouvé.
Un modèle attractif. Vous faisiez le parallèle donc avec ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Mais des problèmes de financement qui ne sont pas exactement les mêmes. L'État islamique, dit-on, Romain Caillé, serait assis sur un magot de 2 milliards de dollars. En tout cas, alors je ne sais pas comment on peut réunir ces chiffres, mais enfin, en tout cas avec la prise de Mossoul par exemple, les banques, les réserves pétrolières, le racket, le trafic de drogue, dit-on, c'est un groupe qui est riche et qui en tout cas, on va dire, d'une certaine manière, si on applique la terminologie économique, est presque rentable quoi, financièrement.
Bon, alors déjà on surestime, je pense, les capacités économiques de l'État islamique, mais il faut quand même rappeler que ça fait quand même longtemps que c'était le groupe le plus riche de tous les groupes djihadistes. Pourquoi? Parce qu'en fait, entre 2008 et 2014, l'État islamique, qui était à l'époque État islamique d'Irak, avant de s'étendre en avril 2013 en Syrie, mais avant il avait le nom d'État islamique d'Irak, était retourné dans la clandestinité, mais était resté un état de l'ombre en quelque sorte. C'est-à-dire que ça allait du racket d'un certain nombre de notables qui n'étaient pas attaqués, bien que notables du régime, parce que il versait de l'argent. Ça allait d'une alliance avec un certain nombre de tribus sunnites. Il faut se rappeler que avant la prise de Ramadi, c'était déjà un fief de l'État islamique parce que à l'époque, il percevait déjà quasiment 100 millions de dollars par an dans cette zone qu'il ne contrôlait pas officiellement. Donc l'État islamique a toujours été une organisation très riche, dotée d'importants moyens et à la capacité de... c'est une franchise qui... Ils ont les éléments, ils ont le savoir-faire pour mettre en place un état de l'ombre avant même d'avoir une domination militaire. ils sont déjà en train d'approcher ça en Libye, où ils sont à quelques dizaines de kilomètres des puits de pétrole du sud libyen. La voie a été ouverte après la prise de l'aéroport de Sirte il y a quelques jours. Ils vont reproduire ça en Libye.
En tout cas, est-ce qu'on peut dire que la question des ressources financières n'est pas une préoccupation majeure pour l'État islamique aujourd'hui ?
Si l'État islamique engendre autant d'allégeances, c'est certes parce que c'est quelque chose d'attractif pour attirer de nouveaux militants pour les chefs. C'est aussi parce qu'il y a un certain nombre d'émirs qui n'étaient pas contents du rôle qu'ils avaient, parce que leur commandement lié à Al-Qaïda, ils considéraient que ce n'était pas assez considéré. Mais il y a aussi, ce n'est pas la principale attraction, mais il y a aussi le fait qu'effectivement, ils sont considérés comme ayant d'importants moyens financiers qui leur permettent d'attirer toutes les allégeances.
Alors, Odier, est-ce que cette puissance financière, ça permet à l'État islamique d'être une puissance militaire ? Autrement dit, est-ce que ça lui permet, par exemple, d'acquérir des armes lourdes qui permettent de mener des combats, soit de guérilla, soit des combats plus classiques ?
Bon, la puissance militaire pour acquérir des armes lourdes, ils n'en ont pas besoin puisqu'ils les ont déjà récupérées. Bon, cela dit, là aussi, il faut modérer un petit peu quand on...
Il les a récupérées, c'est-à-dire notamment à Mossoul, avec des armes de l'armée américaine.
Sur l'armée syrienne.
Qui avaient été fournies à l'armée américaine.
Absolument. Mais bon, il faut rester tout de même prudent. Nous sommes en face d'une guerre où ce ne sont pas les matériels lourds qui sont en train de s'affronter. En réalité, quand ils ont récupéré des dizaines de chars, mais ils ne les emploient pas en unité blindée, comme on les entendait avec le pacte de Varsovie. Il les emploie en canon d'assaut pour appuyer donc une infanterie légère. Donc c'est une puissance d'infanterie légère qui existe. Bon, le côté financier est intéressant parce que tout de même, c'est un des seuls mouvements qui paye ses combattants. Ça, je tiens à le rappeler. Bon, il les paye avec différents niveaux, hein, selon la valeur du combattant. Parce que là aussi, les combattants n'ont pas tous, les unités n'ont pas toutes la même valeur sur le terrain. Hein, une unité à base de Tchétchène, entre guillemets, mais qui a en réalité commandée par un Géorgien, elle est beaucoup plus efficace sur le terrain que certaines autres unités constituées à base d'autres étrangers, je parle des francophones en particulier, qui, d'après les derniers rapports, passent quelquefois un petit peu pour des rigolos, par rapport donc à d'autres unités beaucoup plus performantes. Mais c'est vrai que cette puissance financière est tout de même extrêmement importante à l'heure actuelle, et une des voies, puisqu'on cherche des voies pour régler le problème, ça va être d'essayer de couper l'apport de l'argent frais. Parce que, je vois bien, on vend du pétrole, on va vendre des êtres humains, éventuellement de la drogue, mais on a des acheteurs, on parle jamais des acheteurs. Or, les acheteurs, ils sont liés à quoi ? Ils sont liés au crime organisé. Un crime organisé qui est très connu, c'est les mafias turco-kurdes, qui sont extrêmement puissantes et qui amènent jusqu'en Europe, par exemple, un certain nombre de matériels humains ou de drogues qui sont extrêmement importants. Donc il va falloir certainement combattre d'une façon beaucoup plus énergique les gens qui achètent à l'heure actuelle et qui fournissent des devises, parce que les devises qui ont été récupérées en Irak, c'est du dinar local, hein, donc sur le marché international, ça n'a pas tellement de valeur. Il leur faut du dollar.
Philippe Migaud.
Oui, je voudrais revenir juste sur deux points. La première, c'est que l'autosuffisance financière pour l'État islamique, elle a été acquise dans les années 2010-2011, quand les tribus sunnites qui avaient obtenu de Saddam Hussein le contrôle de la contrebande de pétrole l'ont donné officiellement à l'État islamique, pour les protéger. Et qu'en effet, depuis le fond du service public, et maintenant, ils arrivent par des moyens de délinquance classiques à rengranger de l'argent, c'est-à-dire le trafic d'antiquités qui est en train de se développer, la mise en coupe réglée de la société, parce que les tribunaux islamiques, bah, ils vous tuent un certain nombre d'opposants, puisque les règles en vigueur disent qu'on peut décapiter les gens, on peut les lapider, on peut leur couper les quatre membres, mais la plupart des gens à qui on oppose, je dirais, des critiques sur leur non-salafisation des mœurs, c'est des amendes extrêmement lourdes. Et puis, c'est aussi toujours les prises d'otages, et puis la restitution des corps. Ils enlèvent des Kurdes, ils enlèvent des Syriens, ils les rendent, et ça ne fait pas la une des médias, parce que ce ne sont pas des journalistes occidentaux qui aujourd'hui n'ont plus d'intérêt, ont plus d'intérêt comme victimes sur des vidéos saisissantes que des sommes d'argent.
Oui, parce que c'est ce que j'allais vous objecter. On a l'impression qu'aujourd'hui, les otages qui tombent aux mains de l'État islamique sont à peu près sûrs d'être exécutés. Non, il y a aussi des otages
locaux
qui servent à alourdir les finances de l'État islamique.
Bien sûr. Et puis la deuxième chose sur la puissance militaire de l'État islamique, ce qui est important, c'est la montée en puissance des modes de l'action suicide. On savait très bien sur les attaques de villes précédentes que avant le bombardement qui précédait l'assaut, étaient infiltrés des snipers et étaient infiltrés des combattants suicides qui allaient avec des petits sacs à dos. Aujourd'hui, ce sont des véhicules, des camions ou des voitures qui sont blindés avec des plaques de métal et qui rentrent directement de front dans les défenses de l'armée irakienne ou de l'armée syrienne.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
La puissance de feu de Daesh a-t-elle été sous-estimée? On en discute ce soir avec Philippe Migaud, Alain Rodier et Romain Caillé. Puissance financière importante, donc Romain Caillé. Est-ce que l'État islamique s'en sert aussi pour mener auprès des populations qui sont sous son contrôle une forme de politique sociale qui peut aussi servir à consolider les bases de... Je ne sais pas s'il faut parler d'un régime d'ailleurs politique, je ne sais pas comment on peut l'appeler.
Oui, des slogans de... Une des raisons d'être de l'État islamique et ce qui les différencie d'Al-Qaïda, c'est qu'ils veulent justement incarner un État. Donc un État, ça a fourni des services sociaux, des services publics. Donc effectivement, avec les moyens dont ils disposent, ils réparent, ils font du travail de voirie, ils essaient d'assurer production d'électricité. D'ailleurs, il y a eu une des raisons pour lesquelles la coalition a bombardé des silos de blé au nord-est d'Alep, c'est justement parce que l'État islamique avait mis la main sur la production de pain, ce qui lui assurait un certain nombre d'allégeances. Il faut bien savoir que la grande majorité des Syriens qui vivent sous le territoire de l'État islamique n'adhèrent pas à leur idéologie. Mais néanmoins, ils ne se révoltent pas. Certes, il y a le facteur terreur qui joue, mais pas tant que ça, parce que vous avez même des gens qui partent des zones d'Alep, tenues par la rébellion modérée ou rébellion islamiste, pour aller vivre à Raqqa. Ça veut dire que, parce qu'en fait, l'État islamique parvient à établir une certaine sécurité. Et au fond, la plupart des Syriens, que ce soit Bachar al-Assad, les rebelles modérés ou l'État islamique, ce qui leur importe, c'est d'avoir du pain, de l'électricité et de pouvoir être en sécurité et que leurs enfants ne se fassent pas enlever dans la rue. C'est ça que des besoins basiques que veulent les gens et l'État islamique, en partie grâce à son argent, parvient à donner ça.
Est-ce qu'on peut dire aussi que l'État islamique contribue à redonner une forme de fierté, d'appartenance à la communauté sunnite?
Alors là, c'est le côté, pas seulement sunnite, si vous voulez, en Syrie, la particularité de la Syrie, c'est que c'est quand même une des populations les plus anti-impérialistes qu'on a dans le monde arabe. C'est toute la propagande du régime à jouer là-dessus. Donc il y a ce côté d'une force qui tient tête à l'Occident. Il y a ça qui joue, mais fondamentalement, le besoin de la population, c'est des besoins basiques. Et grâce à son argent, l'État islamique parvient à gagner les cœurs de cette façon. Tandis que Al-Qaïda, la branche syrienne Jabhat al-Nusra, pense gagner les cœurs en essayant de respecter les rebelles et les Syriens. C'est un peu une des faiblesses de Jabhat al-Nusra vis-à-vis de l'État islamique. C'est-à-dire qu'on demande aux combattants étrangers qui sont dans Jabhat al-Nusra de faire profil bas face aux autres Syriens. Alors, forcément, fatalement, les djihadistes étrangers ont plutôt tendance à aller dans l'État islamique, une organisation qui leur donne une place plus importante.
Alors, forte présence de djihadistes étrangers au sein de l'État islamique, mais vous le disiez, forte présence évidemment de Syriens et d'Irakiens. Alain Rodier, est-ce que ça contribue à la force de cette organisation que d'avoir de nombreux officiers qui exerçaient leur activité à l'époque de Saddam Hussein et qui ont donc une approche très professionnelle de ce qu'est, la guerre?
Ah, tout à fait. D'ailleurs, des documents qui avaient été récupérés sur un responsable ont montré qu'il pratiquait une guerre secrète qui était quasi copiée sur ce que faisait la Stasi, c'est-à-dire les infiltrations, renseignements, repérages, etc. C'est pour ça que les victoires militaires qui ont été remportées sur le théâtre syro-irakien étaient précédées par une infiltration du renseignement et une définition des objectifs extrêmement performante.
Mais vous reviens au fait de ces questions de stratégie militaire, est-ce que vous diriez qu'il y a une intelligence militaire dans la façon dont sont menés les combats par l'État islamique?
Tout à fait, mais il faut bien voir aussi qu'il y a un commandement central qui existe, mais qui donne les grandes orientations, mais il y a aussi une initiative qui est donnée aux petits chefs. Quand je dis petits chefs, c'est les chefs de section, les chefs, les commandants de compagnie. Ça va pas plus loin que cela. C'est-à-dire au maximum une centaine d'hommes qui agit à un point précis. Quelquefois, on regroupe 3 ou 4 compagnies pour monter un assaut. Et comme vous le disiez fort justement, ils utilisent cette technique absolument efficace, c'est-à-dire de lancer d'abord des véhicules suicides, et ils profitent, mais ils savent exactement où le lancer également. Ils ne le lancent pas forcément sur l'entrée principale qui est protégée, ils le lancent à un endroit faible, et ensuite ils exploitent pour pénétrer à l'intérieur des défenses adverses. Mais donc il y a une dynamique offensive de l'État islamique. Toutes les autres armées sur le terrain à l'heure actuelle ont une technique défensive. C'est eux qui sont à l'initiative à l'heure actuelle. Et ça, c'est extrêmement important. Le jour où on arrivera à bloquer cette initiative, là, peut-être que ce sera le début de la fin. Je reviens sur les combattants étrangers. Pour le moment, c'est une force, mais ça peut devenir une faiblesse. Et on l'a vu en Syrie, il commence à avoir, tout de même au sein de certaines populations, un ras-le-bol de ces combattants étrangers qui se comportent un petit peu n'importe comment. On l'avait déjà vu en Afghanistan à l'époque, il y a une bonne dizaine d'années, où les combattants étrangers étaient honnis par la population locale. Et donc là, ça avait donné un système, une sorte de rejet par les populations. Alors peut-être que à terme, ça sera plus un atout pour l'État islamique.
Philippe Migaud, est-ce que la forte présence d'anciens officiers irakiens de Saddam Hussein ne peut pas être, elle aussi, à terme, une forme de faiblesse pour l'État islamique, si l'on considère que ces officiers-là, leur objectif, c'est avant tout un objectif politique, qui serait de reconquérir le pouvoir en Irak, mais peut-être en s'éloignant ensuite de l'idéologie qui est véhiculée par l'État islamique?
Non, je pense qu'on a dépassé ce stade. Je pense qu'il faut rappeler d'abord que, selon la propagande de l'État islamique, l'agenda de l'organisation a été créée par son fondateur en 2004, Abu Musab al-Zarqawi. Il est mort en 2006. Elle était en 5 étapes. La première étape, c'était faire venir des gens de l'extérieur dans une égire, faire venir les bons musulmans pour combattre ensemble. Ça, ça a été fait à partir de 2004. On a eu des milliers de combattants étrangers. Deuxième étape, c'était l'unité des Moudjahidines. Et en 2006, en juin 2006, l'organisation qui était Al-Qaïda au Pays des Deux Rivières, l'organisation d'Abu Musab al-Zarqawi, s'est fédérée avec 5 autres organisations sunnites qui n'étaient pas automatiquement des djihadistes, mais dans lesquelles vous aviez des cadres de l'ancien régime. Et ça formait le Conseil consultatif des Moudjahidines d'Irak et l'État islamique. Troisième étape, c'était la déstabilisation des régimes. Et ça, ils l'ont parfaitement obtenu grâce à l'aide d'un volontaire du régime d'Al-Maliki qui a persécuté les populations sunnites, à tel point qu'en 2011, décembre 2011, au moment où les Américains se retournent d'Irak, vous avez autant d'attentats sur le territoire irakien qu'en décembre 2008, 3 ans plus tôt. La quatrième étape, c'était la structuration de cette entité. Structuration territoriale qui a été permise par les conquêtes militaires de juin 2013 jusqu'à aujourd'hui. Et en particulier la conquête de Mossoul en juin de l'année dernière. Et puis, dernière étape aujourd'hui, enfin à partir du 29 juin 2014, premier mois de Ramadan, c'est l'annonce de la fondation d'un État islamique, l'annonce du califat, avec un al-Baghdadi qui est présenté comme étant le représentant parce qu'il est l'héritier de la tribu du prophète les al-Qurayshi, parce qu'il a un doctorat en sciences islamiques et puisqu'il a conduit le djihad. Derrière tout ça, c'est la volonté d'allégeance de tous les musulmans, y compris d'Al-Qaïda, c'est le modèle global.
Donc un agenda qui est plutôt respecté par rapport à ce qui était prévu. C'est d'ailleurs assez impressionnant hein, dans votre livre, puisqu'il y a des étapes encore pour les prochaines années. Quand on vous lit, 2016 à 2018, le regroupement d'une nouvelle armée islamique dans le califat donne la capacité militaire de s'engager dans la confrontation directe avec l'Occident. La dernière étape, c'est de 2018 à 2020, c'est ce qui est prévu. S'engage la lutte des civilisations. Le 1,5 milliard de musulmans rallient la mouvance djihadiste pour permettre la victoire universelle de leur religion. La victoire universelle de leur religion, c'est ça l'objectif qui est recherché aujourd'hui par l'État islamique? Romain Caillé?
Oui, alors effectivement, la prise de Rome revient souvent dans la rhétorique de l'État islamique. C'est pas prendre Wall Street ou certes il parle de la Maison Blanche, mais c'est souvent la prise de Rome. Et d'ailleurs un des éléments de la propagande de l'État islamique qu'on sous-estime mais qui va peut-être favoriser le recrutement dans les années à venir ou dans les mois à venir, c'est justement la prise de Rome, parce que tant la rhétorique autour du Levant et de toute l'eschatologie sur la bataille de la fin des temps avec l'Antéchrist a attiré un certain nombre de jeunes, mais la prise de Rome ça fait également sens et ça fait référence à la bataille de la fin des temps. Mais ça a été mentionné.
Elle est où Rome aujourd'hui?
Elle est au sud de la Libye. Et justement, plus l'État islamique est présent en Libye, plus ils mentionnent Rome dans leur rhétorique. Par contre, je voulais juste revenir sur ce qui a été dit plus tôt à propos des bassistes, parce que ça commence à devenir un peu un lieu commun dans certains milieux journalistiques, de dire qu'en fait, il y a une sorte de complot bassiste, que c'est des djihadistes avec des fausses barbes qui veulent poser Saddam Junior à la tête d'un nouvel État bassiste, après avoir pris les djihadistes comme des idiots utiles. C'est totalement faux.
Pour vous, ils sont totalement intégrés.
Oui, en fait, il faut bien distinguer deux choses. Il y a des barcistes qui étaient des barcistes convaincus, qui le sont toujours aujourd'hui, et qui sont des alliés tactiques de l'État islamique. C'est le cas de Izzat Dourri, qui a récemment pris de ses distances avec cette organisation. Et puis, vous aviez des gens qui étaient des officiers, mais pour faire carrière dans le régime de Saddam Hussein, fallait bien évidemment avoir sa carte au Barse. Mais ça, c'était pas des gens convaincus. Et ces gens-là, que ce soit Haji Bakr, auquel Alain Rodier a fait référence tout à l'heure, ou Abou Abdelrahman El-Bilawi, qui est un ancien commandant de la garde républicaine et colonel d'état-major pour Haji Bakr, c'était des gens qui avaient leur carte au Barse, mais qui n'étaient pas des barcistes convaincus. Ajoutons à ça qu'il y avait eu le programme de la foi mise en place par Saddam Hussein, qui a islamisé, y compris l'élite, qui a islamisé une bonne partie de la population, et aussi l'élite. Et quand on vient sur le parcours militant, quand on étudie le parcours militant de Haji Bakr et de Abou Abdelrahman El-Bilawi, on voit que ces gens, ils ont rejoint le groupe de Zarqawi avant même qu'ils prêtent allégeance à Al-Qaïda. À une époque où les groupes islamo-nationalistes, ils avaient encore une certaine force. Donc c'était pas un choix, c'était pas seulement un choix opportuniste, c'était un choix idéologique. Pour moi, ces gens, ils sont plus du tout barcistes, c'est juste des gens qui font bénéficier l'organisation de leur expertise.
Donc en tout cas, il ne faut pas que la coalition internationale mise sur d'éventuelles divergences futures pour espérer combattre l'État islamique. Ça veut dire que c'est une question qui est aujourd'hui, Alain Rodier, avant tout militaire. Or, on voit bien les difficultés que peut avoir la coalition, qui pour l'instant ne s'est pas engagée au sol, qui compte sur certains relais au sol, mais qui sont plus ou moins fiables. Disons, est-ce qu'on peut imaginer qu'à l'avenir, on ne pourra pas échapper à une intervention terrestre?
Il est sûr qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune force terrestre qui n'est capable de reconquérir les places qui ont été saisies par les islamistes de Daesh.
Est-ce que ça fait partie de la stratégie d'ailleurs de la coalition que de reconquérir les places qui ont été conquises, ou bien est-ce que l'idée ça serait d'avoir une forme de statu quo aujourd'hui?
Alors la question qui se pose, est-ce qu'on va finir par admettre qu'il y a un État salafiste à cheval sur l'Irak et la Syrie? Bon, et à partir d'un moment, il faudra bien que la décision, qu'il y ait des négociations. J'ai du mal à le dire parce qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas du tout dans l'air du temps. On est dans une période de guerre, mais il faut être sur le plan militaire. Il faut regarder les choses en face. Les seuls qui peuvent reconquérir un petit peu du terrain, c'est les chiites, mais pas trop loin tout de même. Ils peuvent pas s'aventurer outre mesure en terrain sunnite, et ils le savent très bien. Bon, peut-être qu'ils vont essayer de reconquérir Ramadi, mais en réalité, Ramadi, si jamais Daesh se rend compte qu'il est en position de faiblesse, ce qui s'est passé à Tikrit, il se repliera. Il n'y aura pas vraiment de combat, c'est-à-dire qu'il se repliera avec un combat retardateur en utilisant les tireurs d'élite, les pièges, etc., de façon à pouvoir ménager ses effectifs. Parce qu'un des grands soucis tout de même de Daesh, il n'a pas tant de combattants que cela. Et il faut préserver cette force combattante. Donc il évite de livrer bataille, enfin quand je dis bataille, une grande bataille, il évite de le faire.
J'ai lu Alain Rodier, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais que l'État islamique parvenait à recruter davantage de combattants qu'il n'en perdait au combat ou dans les opérations suicides.
Bah en Syrie, déjà, il a ouvert pas des bureaux de recrutement, c'est quasi la conscription maintenant. Donc et ailleurs, ce sont des volontaires, mais effectivement, il a tout de même besoin de remplir les vides qui se sont faits. Mais pour le moment, soyons francs, les effectifs n'ont pas vraiment bougé. On parle toujours, bon, c'est très difficile à évaluer, mais on parle toujours de 20 000, 30 000 combattants au maximum. Mais ça n'a pas évolué depuis un an.
Philippe Migaud, vous dites dans le livre que vous avez coécrit avec David Benichou et Farhad Khosrokavar que, alors même si c'est une guerre qui peut durer longtemps, de toute manière, elle est perdue d'avance pour l'État islamique. L'État islamique ne pourra pas gagner. Qu'est-ce qui vous fait être à ce point certain de ce futur-là?
Parce que ils sont dans L'augmentation grandissante de la barbarie. Ils sont sur un combat qui est dirigé contre l'ensemble de la communauté internationale. Le problème, c'est qu'ils ont une vraie capacité de nuisance. Je dirais que le problème aujourd'hui, il est qu'ils ont une capacité à travailler sur les failles de la communauté internationale. La deuxième, c'est qu'ils créent une barbarie structurée. Ce que disait très bien Romain tout à l'heure quand il parlait de ces images. On parlait de la revue d'Abic. Vous avez un mélange curieux des choses dans la revue d'Abic. Vous avez d'abord toutes ces photos de cadavres, de drapeaux islamiques qui montrent les ennemis humiliés, pas seulement tués, mais humiliés. Donc les vrais musulmans, eux, peuvent reprendre le pouvoir. C'est un appel à la fierté des vrais musulmans. Et la deuxième chose, c'est qu'ils vous montrent en même temps des photos de gamins souriant dans des nouvelles cours d'école, de familles entières qui peuvent être vaccinées, de nourriture qui est apportée, qui est de la bonne nourriture, montrant qu'il y a une barbarie structurée et que l'État islamique peut fonctionner.
Mais ça ne s'appelle pas pour une défaite obligatoire, c'est
non. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est la nécessité pour demain de trouver de nouveaux modèles de gouvernance, parce que vous êtes dans un Moyen-Orient qui, depuis maintenant plus de 60 années, est victime de lui-même, victime de ses échecs, victime des mensonges de l'Occident, victime des affrontements entre, d'un côté, des nationalismes laïcs et des retours à une radicalité religieuse avec deux modèles depuis 79, et que derrière tout ça, on s'aperçoit que quand les milices chiites reprennent des territoires à Daesh, ils font pas beaucoup mieux que le font les gens de Daesh. Deuxièmement, à l'intérieur, il y a toujours ce risque, quand on disait il faut choisir une fragmentation dans la mouvance djihadiste, objectivement, Jabhat al-Nusra, c'est moins dangereux aujourd'hui que l'État islamique, mais ça reste quand même extrêmement dangereux et on ne peut pas choisir entre les deux.
Romain Caillet, sans alternative politique différente de ce qui a été proposé jusque-là, il ne peut pas y avoir de solution au problème que pose l'État islamique.
Ce qu'il y a, c'est que ça soit aux sunnites irakiens ou aux sunnites syriens, la communauté internationale n'a absolument rien à proposer. On se rappelle comment est-ce que les États-Unis sont parvenus à faire reculer l'État islamique d'Irak, à l'époque on disait Al-Qaïda en Irak, de ce territoire, en montant ce qu'on appelait la Sahwa, aujourd'hui qu'on appelle les Sahawat, mais ce qu'on appelait la Sahwa, c'est-à-dire des milices sunnites qui combattent du côté des Américains. L'objectif de ces milices, c'était pas seulement l'argent, c'est combattons avec les Américains, on aura de l'argent, des armes, et quand ils partiront, on aura une sorte d'autonomie comme les Kurdes. Ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Quand les Américains sont partis, déjà, il y avait une quasi-autonomie du Kurdistan. Ils n'ont pas voulu complètement faire éclater l'Irak, et ils ont remis le commandement de la Sahwa, de ces milices, au régime de Maliki, qui les a humiliés. Donc, maintenant, reformer de nouvelles milices, ça ne marchera pas. Je veux dire, il faudra vraiment... on ne peut pas regarder l'Irak comme ça. C'est soit accorder l'autonomie aux populations sunnites, soit jamais le régime de Maliki... Enfin, le régime Abadi, le régime, entre guillemets, ce régime chiite, parviendra à reprendre son autorité, sa souveraineté sur les territoires sunnites, même s'il peut reprendre des villes ou reprendre des terrains. Pareil en Syrie. En Syrie, les plus grandes puissances ne veulent pas démanteler le régime alaouite parce qu'ils considèrent que les officiers alaouites ont une certaine expertise. Donc l'idée, ça serait de forcer des rebelles modérés à négocier avec certains milieux alaouites. Mais ça encore, les sunnites qui mènent une guerre depuis 2 ans au régime n'accepteront pas. Jolani n'avait pas vraiment tort dans son interview à Al Jazeera. Il disait une solution politique, même les enfants n'en voudront pas.
Plus on parle de l'État islamique, c'était l'objet de notre émission de ce soir, et moins on parle d'Al-Qaïda qui semble affaibli aujourd'hui. Alain Rodier, est-ce que le risque, ça n'est pas aussi d'enterrer un peu trop vite peut-être Al-Qaïda qui pourrait vouloir justement revenir un peu sur la scène?
Je suis tout à fait d'accord avec vous. On a enterré 3, 4, 5 fois Al-Qaïda et Al-Qaïda est toujours là. Parce qu'ils savent se ressourcer. Et pour moi, à l'heure actuelle, c'est vraiment en Syrie, je parle bien pour la Syrie, le danger le plus important pour le pouvoir de Bachar el-Assad. Parce que eux, ils sont très proches justement des centres décisionnels, ils sont très proches de la côte et ils ont une capacité de nuisance beaucoup plus directe à l'heure actuelle, mais pour le pouvoir en place à Damas. Et surtout, ils sont soutenus directement, cette fois, par la Turquie, l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui ont réussi à faire l'alliance sur cette affaire-là.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Alain Rodier, Philippe Migaud et Romain Caillet. Discussion que vous pouvez poursuivre sur notre site internet franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Une émission que vous pouvez réécouter pendant 1000 jours et télécharger pendant 1 an. Demain, changement radical de sujet, comme ça nous arrive quasiment quotidiennement. L'intérêt de l'enfant est-il toujours compatible avec le droit ? Voilà, ce sera notre débat demain mardi à partir de 18h20. Pour l'heure, c'est le rendez-vous avec Laurent Goumard. Bonsoir Laurent.